La vérité qui libère. La vérité qui libère.
La vérité qui libère.
C'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. C'est aussi votre émission de la solution, car pour tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Vous qui aimez la vérité biblique, vous qui cherchez la vérité biblique, et vous qui cherchez la vraie délivrance, connectez-vous sur cette émission, la vérité qui libère, et recevez votre délivrance et votre liberté totale au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous et soyez comblés au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, les honneurs et les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Amen.
Vous qui êtes si nombreux et si nombreuses à l'écoute, vous ne vous êtes pas du tout trompés. Présentement, vous êtes en train d'écouter la vérité qui libère. Ce merveilleux et magnifique rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique uniquement. Rassurez-vous, vous avez vraiment très très bien fait d'être à l'écoute. Si vous étiez en train de faire n'importe quoi, mettez un peu d'écouter. Ouvrez attentivement vos cœurs et vos oreilles et estulez et sur quoi noter. Et certainement, la vérité que vous allez écouter ne manquera pas de vous libérer d'une manière ou de l'autre. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu honorer une fois de plus ce merveilleux rendez-vous. Ce n'est pas toujours évident. Oui, ce n'est pas toujours évident. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour son souffle de vie et surtout pour ce merveilleux moment. Il y a la technique Ecclésiaste et Sceaux. Et à mes côtés, notre bien-aimé dans le Seigneur, lui, c'est Blaise Talom. Et quant à moi, je suis le pasteur Rodrigue Genji. Bien-aimé, une fois de plus, tu as pu faire le déplacement pour être dans ce studio par la grâce du Seigneur.
Amen. Oui, effectivement, le Seigneur a permis que je sois encore là ce soir. N'est-ce pas? Je voudrais dire bonsoir à tous ceux, à toutes celles qui nous écoutent de l'autre côté. Vous ne vous êtes pas trompés. Connectés. Parce que c'est l'émission La vérité qui libère. Et n'est-ce pas, dans cette émission, sans concession, comme le générique le dit, sans compromission, nous déclarons la vérité. Nous avons accepté être rejetés par les hommes. Nous déclarons la vérité, pas comme, n'est-ce pas, les autres le font, mais nous déclarons la parole de Dieu selon la parole, pas selon les hommes. Donc, vous ne vous êtes pas trompés, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis convaincu qu'encore ce soir, le Seigneur va se manifester et les écailles vont tomber de vos yeux. Pour que la gloire ne revienne pas à un homme, non, mais que la gloire revienne à lui tout seul, celui-là qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Sans plus tarder, nous allons prier. Papa, nous voulons te bénir une fois de plus. Nous voulons te rendre infiniment des actions de grâce, non seulement pour cette radio, mais également pour cette émission. Non seulement pour les fidèles auditeurs, pour les fidèles auditrices qui nous écoutent de l'autre côté, mais également pour nous qui sommes ici. Papa, parce que ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ta grâce. Et nous croyons encore ce soir, Seigneur, que ton esprit va mouvoir, que ton esprit va encore libérer ceux qui sont captifs, parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu. Et Seigneur notre Dieu, notre Roi, utilise-nous comme des vases inutiles, afin que toute la gloire te revienne. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen, amen. Et la particularité de cette émission, c'est qu'elle est consacrée aux enseignements. Ces enseignements qui nous permettront tous d'être prêts pour le prochain retour du Seigneur, car c'est l'espérance de l'Église aujourd'hui. Oui, les vrais chrétiens et l'Église véritable attend le retour de son Maître, le Christ. Et nous sommes là pour contribuer d'une manière ou de l'autre à amener les hommes à se préparer et l'Église en particulier à se préparer également, étant donné que la Bible nous dit clairement que l'Église que le Christ revient chercher, c'est une Église sans tache, sainte, irréprochable, rien de semblable et glorieuse.
Amen.
Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que l'Église est très très loin de cet idéal. Et nous voulons contribuer à notre manière à sonner la trompette pour pouvoir alerter les uns et les autres. Oui. Et nous allons continuer, il n'y a pas longtemps, nous avons engagé une série d'émissions à ces prières qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, pour ne pas dire les fausses prières. Beaucoup de choses ont été dites. Et vu l'engouement que ce sujet a suscité, beaucoup ont même appelé après les émissions, beaucoup ont envoyé même des messages. Peut-être c'est mieux de faire un petit résumé avant de continuer par rapport à ces prières qui sont faites, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, pour ne pas dire les fausses prières. Et nous n'aurons plus le temps de lire les différents versets qui ont soutenu tout cela. Parce que, vous le savez, nous prenons le temps, non seulement de vous donner les versets, mais de lire même à partir d'ici, afin que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu et non sur les déclarations des hommes. Nous avons vu que les prières qui sont adressées à la Sainte Vierge Marie, aux saints, aux anges, ne viennent pas de la Bible. Oui. Si vous avez l'habitude de faire ce genre de prière, priez par exemple en vous adressant à la Sainte Vierge Marie, aux saints, aux anges, ça ne vient pas de la Bible. Vous qui avez également l'habitude de prier avec des chapelets, que sais-je encore, est-ce que vous voyez de telles choses dans les Saintes Écritures? Tout cela ne vient pas de la Bible. Et lorsque vous faites des prières qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, faites très très attention, parce que nous sommes là dans le monde spirituel. Même les mauvais esprits peuvent agir et vous pensez que c'est Dieu. Nous avons également vu que, à la lumière des Saintes Écritures, oui, on ne doit pas revendiquer la guérison comme faisant partie du sacrifice de Christ à la croix. Christ est mort pour que nos péchés soient effacés, que nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il n'est pas mort pour que nous puissions obtenir la guérison. Et ça ne veut pas dire que Christ ne guérit pas, il guérit jusqu'à présent parce qu'il ne change pas. Mais nous pouvons remarquer que lorsqu'il était même sur la terre, il guérissait déjà les gens. Donc, il n'avait pas besoin de mourir sur la croix pour que les gens soient guéris. Oui. Et nous avons soutenu tout cela la dernière fois avec les Saintes Écritures, bien entendu. C'est juste un résumé pour que ceux-là qui n'ont pas pu suivre puissent être un peu dans le bain, tout simplement. Nous avons également vu qu'à la lumière des Saintes Écritures, le Seigneur a demandé à ses disciples de chasser les démons et non de négocier avec eux ou de dialoguer avec eux, comme nous le voyons souvent, parfois même dans les chaînes de télé où les gens passent le temps à dialoguer avec les démons. D'ailleurs, il y a eu des réactions même après l'émission où les gens appelaient en disant que, mais est-ce que ce n'est pas souvent nécessaire d'interroger les démons pour savoir leur mission dans la vie de ces personnes qui sont tourmentées, ce que ces démons sont venus faire? Beaucoup de questions allaient dans ce sens. Et pour couper court, j'ai dit, est-ce que Jésus a enseigné cela? Est-ce que la Bible recommande telle chose? Vous voyez, parce que lorsqu'on est habitué parfois à certaines choses, ou bien habitué à voir certaines choses, on finit par croire que c'est normal, que c'est bien, c'est biblique, alors qu'il n'y a aucun verset biblique qui soutient de telles choses. Et je disais même que moi, en tant que serviteur de Dieu, si j'ai des renseignements par rapport à quelque chose, c'est vers la parole de Dieu que je veux me tourner, vers le Seigneur Jésus et non vers les démons. Parce que les démons servent le diable qui est le père du mensonge. Et le diable est un séducteur, un manipulateur. Donc, les démons peuvent même dire des choses qui ne sont pas du tout vraies, juste pour vous distraire et pour créer même des problèmes ça et là. Chassons les démons, tout simplement, comme le Seigneur l'a recommandé. Et doit-on également où il y a le diable et les démons. Nous avons vu à la lumière des Écritures que le verset qui était utilisé dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 18 n'était pas en rapport avec les démons et le diable. Le Seigneur parlait de la discipline dans l'église et que si on chasse quelqu'un de l'église parce que cette personne ne veut pas se repentir après avoir été averti par plusieurs frères et même par l'église, cette personne sera excommuniée et Dieu va approuver cela au ciel. Ça n'avait aucun rapport avec le fait de lier les démons et le diable. On chasse les démons et le diable, tout simplement. Un moment viendra où le Christ lui-même se chargera de lier le diable avec tous ceux qui le servent. Nous avons lu tout cela la dernière fois dans Apocalypse chapitre 20. Nous avons également vu que dans la Sainte Écriture, on ne doit pas invoquer le feu sur le diable et sur les démons, les sorciers. Nous avons lu que ces genres de prières ne viennent pas de la Bible. Il y a des gens qui prétendent invoquer le feu, fire, fire, dans les églises et dans les chaînes de télé. Montrez-moi un seul exemple du Seigneur Jésus où ses apôtres appelaient lui faire ces genres de prières. Et je disais déjà la dernière fois que beaucoup vont dans l'Ancien Testament prendre l'exemple d'Élie ou Élisée ou bien même certaines prières de David. Et nous avons lu la dernière fois de l'évangile selon Jean chapitre 1 verset 17 que la loi est venue par Moïse, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc le Seigneur Jésus est venu avec l'authentique. Oui, on ne peut pas laisser les enseignements du Seigneur Jésus pour retourner encore dans l'Ancien Testament, chercher je ne sais quoi, et égarer les gens avec. Et le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit que ceux qui invoquent le feu sur les hommes sont animés d'un mauvais esprit. Nous avons lu cela dans l'évangile selon Luc chapitre 9. Et nous avons également vu que ce n'était pas normal d'invoquer le sang de Jésus pour se protéger, pour se purger, pour oindre les voitures et les maisons. C'était même une façon de profaner le sang. Le Seigneur Jésus a versé son sang et en tant qu'agneau de Dieu, il a représenté tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux particulièrement étaient liés la plupart du temps au péché, à la purification du péché. Et Jésus a versé également son sang pour que nos péchés soient effacés et purifiés. Il n'a jamais versé son sang pour que nous puissions l'utiliser pour couvrir nos maisons, les voitures, invoquer vraiment comme des perroquets, j'invoque le sang de Jésus n'importe comment. Et nous avons soutenu également la dernière fois avec beaucoup de versets bibliques. Tout ça, c'était un rappel hein, pour vous qui n'avez pas eu l'occasion de suivre. Nous avons également parlé de l'huile d'onction, un autre sujet qui fait rage dans les églises. Et nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que l'huile d'onction n'existe plus sur la terre. Nous avons lu ensemble dans Exode chapitre 30 à partir du verset 22, verset 33. L'huile d'onction, même dans l'Ancien Testament, c'était tout simplement une composition spéciale. Et Dieu avait interdit qu'une personne puisse pouvoir faire une telle composition. Et une personne qui devait s'hasarder à faire une telle composition devait être vraiment bannie. Et Dieu avait également dit que cette huile ne devait jamais être utilisée pour oindre les hommes avec. Qu'en est-il alors de ces huiles que l'on utilise aujourd'hui? On dit que c'est l'huile d'onction alors que ça n'existe plus sur la terre. Et on oindre même les gens avec. Vraiment, c'est en opposition de la parole de Dieu, en opposition fragrant même, selon ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, il y a un texte dans Jacques, où beaucoup connaissent, où la Bible nous demande d'utiliser l'huile pour oindre les malades. C'est un texte de Jacques. Notre frère va chercher et lire pour nous tous, et nous allons essayer de dire quelque chose par rapport. Beaucoup connaissent cette portion de Sainte Écriture. Oui, l'épître de Jacques. Beaucoup connaissent. Nous sommes dans Jacques 5, verset 14.
Jacques 5, au verset 14. Là, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur.
Amen. Et remarquons que la Bible nous dit en loyant d'huile, pas d'huile d'onction. Donc l'huile, tout court, pas l'huile d'onction. Et c'est normal parce que l'huile d'onction n'existe plus sur la terre. Et Dieu avait carrément interdit que l'on puisse en fabriquer en davantage ou bien que l'on puisse même utiliser sur l'homme. Alors, ici là, dans ce texte, nous pouvons l'interpréter de deux manières. L'huile, comme nous allons le voir plus tard, si on le sort de son contexte littéral, c'est-à-dire si on ne veut pas utiliser lui comme vraiment l'huile que nous connaissons tous, n'importe quelle huile, en dehors de ce cadre-là, l'huile, c'est tout simplement l'image du Saint-Esprit dans la Bible. Nous allons voir cela tout à l'heure. Puisque dans l'Ancien Testament, cette huile avait été composée pour pouvoir oindre les ustensiles et tout ce qui était utilisé pour consacrer cela à Dieu, y compris Aaron et ceux qui travaillent avec lui dans le temple. C'était pour se consacrer. Et nous allons voir tout à l'heure que nous n'en avons plus besoin. Bon, si on laisse l'huile dans ce cadre-là, deuxièmement, l'huile ne peut être tout simplement que médicament. Tout simplement. Et ça veut dire qu'on peut remplacer l'huile par n'importe quel médicament. Par exemple, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 34, vous pouvez relever, et nous allons lire pour vous, puisque nous sommes là pour vous instruire, pas juste dire les choses comme cela.
Luc 10, verset 34, là il est écrit, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. »
J'ai juste pris le verset qui nous intéresse. Si vous lisez tout le texte, il s'agit de l'histoire de qu'on appelle vulgairement le bon samaritain, qui trouva quelqu'un qui était blessé, abandonné par les brigands en route, qui était presque mourant. Et la Bible nous dit qu'il va se précipiter vers cet homme pour le secourir, et il va utiliser l'huile et le vin pour pouvoir le soulager. Et le vin, à cette époque, c'était comme un remède, parce que ce vin contenait de l'alcool et ça pouvait aider à désinfecter les blessures, les plaies. Et maintenant, l'huile devait venir comme adoucissant. Oui, voilà l'huile maintenant comme un remède. Donc, dans la parole de Dieu, l'huile tout court, soit c'est un remède, soit, spirituellement parlant, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'à la place de l'huile, vous pouvez vraiment utiliser l'huile. Par exemple, comme l'huile d'olive qui a des vertus curatives que beaucoup savent. En buvant, par exemple, une cuillerée chaque jour, ça peut être très bien pour votre organisme et pour votre estomac. De la même manière, vous pouvez remplacer avec n'importe quel médicament. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit.
Et c'est même d'autant plus vrai qu'aujourd'hui même, nous avons des huiles autour de nous qui ont, n'est-ce pas, des vertus thérapeutiques. Nous voyons, nous pouvons voir, par exemple, l'huile du manianga, c'est-à-dire l'huile de palmiste, que nous voyons autour de nous. Lorsque nos enfants ont des petits problèmes de boutons, on peut les appliquer cette huile pour, n'est-ce pas, espérer avoir une guérison. Et lorsque nous poursuivons, lorsque nous regardons même attentivement ce verset, il est clair que la Bible dit là-bas que ce n'est pas en fait l'huile qui guérit.
Oui, c'est la prière. Hein?
C'est la prière de la foi. Et c'est ce qu'il est dit au verset 15. Il dit bien que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Nous comprenons donc que, en fait, ce n'est même pas l'huile en tant que telle. Et c'est pour cela que souvent, lorsque nous prions, même pour des malades, nous disons souvent de temps en temps que l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc l'homme peut soigner à travers les médicaments, à travers les différents types d'huiles qui ont, n'est-ce pas, des valeurs thérapeutiques. Mais imaginons un peu que vous avez, par exemple, un problème, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est une imagination. Un problème, par exemple, d'estomac. Hein, et que on vous dit voilà l'huile d'onction, oignez-vous avec cette huile. Est-ce que cette huile a cette valeur thérapeutique qui vous permet de régler un peu votre problème d'estomac? Donc essayons de vraiment de comprendre que en fait il s'agit simplement d'un médicament si on veut prendre ça dans ce cadre là. Mais c'est dans un autre cadre, comme le pasteur l'a dit, et c'est clair, l'huile, n'est-ce pas, c'est simplement l'esprit, c'est simplement l'image du Saint-Esprit.
Vraiment, et nous insistons, nous persistons et nous signons que les serviteurs de Dieu qui abusent de la naïveté des gens en les vendant des huiles dans des petits flacons en disant que c'est l'huile d'onction, vraiment qu'ils arrêtent avant que le Seigneur vraiment ne les frappe, parce que c'est une escroquerie morale.
Amen. Et je voulais dire, n'est-ce pas?
Oui, parce que c'est une escroquerie morale, une escroquerie intellectuelle même. Oui, une escroquerie spirituelle et financière et matérielle.
Amen. Et je voulais donc dire que de deux choses l'une. Soit, n'est-ce pas, c'est une ignorance, et par cette émission, les uns et les autres sont éclairés, soit c'est simplement la rébellion. Et nous voulons également le dire, Bien-aimé, pasteur, ce n'est pas par orgueil qu'on le dit non. Si nous sommes là, et si l'Église, n'est-ce pas, autour de nous a des véritables problèmes, c'est parce que nous comprenons, nous constatons, et c'est un constat même de la part de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous donnons cette émission, que l'Église n'est pas enseignée. Les gens ne sont pas enseignés autour de nous. Selon les saintes écritures, on harangue simplement les gens, on fait sautiller les gens, mais l'enseignement pur qui doit venir de la parole de Dieu, les gens ne reçoivent plus cela. Donc, nous bénissons le Seigneur si nous avons autour de nous des frères qui ont ces dons. Comme vous êtes en train de le remarquer à travers les enseignements que vous recevez, bien aimé, en toute humilité, il est mieux, avant qu'il ne soit trop tard, de s'humilier et de dire « Seigneur, j'ai entraîné les gens dans l'erreur, pardonne-moi » et que nous allons, que nous soyons assez humbles pour interpeller les uns et les autres à leur dire « Nous étions dans l'erreur ». Voilà, à travers le Seigneur, à travers un frère, à travers un pasteur, m'a ramené sur le droit chemin. Si nous le faisons, je suis convaincu que Dieu va faire des choses. Mais si nous voulons par orgueil rejeter tout ce que vous écoutez, pourtant c'est des choses que nous sommes en train de lire, nous sommes en train d'expliquer selon la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible le dit dans le livre de Corinthiens, que nous tous nous comparerons tous devant le tribunal du Seigneur.
Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous n'êtes même pas d'accord avec ce que nous enseignons et que vous pouvez justifier en soutenant par les versets bibliques, sentez-vous libre. Et si vous voulez maintenant envoyer le message, vous pouvez également relever ces deux numéros. Et je signale que ces deux numéros que vous allez recevoir, même après l'émission, vous pouvez appeler sans problème au travers de ces deux numéros, car ce sont des numéros personnels. Oui, le 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. Je reprends 677 61 93 77 ou le 696-36-25-40. Et nous sommes en train de parler de l'huile d'onction. Vous êtes en train d'écouter la vérité qui libère. Et nous sommes tous dans le cadre des prières qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu et surtout certaines pratiques. Avant de retourner encore sur ce sujet d'huile d'onction, en dehors de l'huile, beaucoup proposent déjà de l'eau dans des bouteilles, dans des flacons aux gens. Vous qui courez après ces choses, laissez ces choses-là, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a pas un enseignement dans la Bible qui encourage les gens à faire recours à ces choses-là. L'eau dans les bouteilles, dans les flacons. Peut-être on vend avec les photos même des prophètes dessus. Je n'ai pas peur de dire que ça, c'est déjà de la sorcellerie. Parce que lorsqu'on sort de la parole de Dieu, on ne sait pas là où ils ont pris ces eaux. On ne sait pas ce qui les anime pour pouvoir faire ce genre de choses. Et il y a un danger lorsqu'on sort de la parole de Dieu. Si vous avez ce genre de choses chez vous, débarrassez-vous vraiment de ces eaux. Jetez au WC, vous n'en avez pas besoin. La prière de la foi. Oui, si vous priez avec foi, le Seigneur interviendra. Vous n'avez pas besoin de ces choses. Puis encore, lorsqu'on vous vend, même si on vous donne gratuitement, ne prenez pas. Avant de revenir dans l'huile, il y a une petite parenthèse également. C'est bien de souligner, puisque nous sommes là pour ça. Nous avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 19, quelque chose. Et nous allons un peu nous attarder dessus avant de continuer. Parce que nous voulons un peu attirer votre attention à tous les niveaux. Nous sommes dans Acte 19, particulièrement les versets 11 et 12.
Là, il est écrit: et Dieu, faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient.
Et les maladies?
Et les maladies, autant pour moi, les quittaient. Et les esprits malins sortaient.
Amen. Voilà un texte qui nous dit que l'apôtre Paul, à un moment donné dans son ministère, faisait tellement de miracles. Les gens qui venaient le touchaient même avec les mouchoirs et rentraient appliquer ces mouchoirs sur des malades, et les malades étaient guéris. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres n'est pas un livre d'enseignement, comme nous l'avons dit la dernière fois, je reprécise. Luc a tout simplement retranscrit ce qu'il a vu. Et ce n'était pas une doctrine qu'il était en train de développer. Malheureusement, beaucoup lisent le livre des Actes des Apôtres comme si c'était un livre de doctrine. C'est-à-dire comme un livre d'enseignement. Non, il y a les enseignements que dans les épîtres. Nous ne voyons nulle part l'apôtre Paul ayant écrit presque à lui seul la moitié du Nouveau Testament avec les Épîtres, on ne le verra nulle part dans les Épîtres demander aux chrétiens de venir
avec les mouchoirs.
Alors que les gens ont vraiment appliqué les mouchoirs sur lui et ils sont partis mettre sur le mal, les mains ont été guéris. Mais c'était quelque chose comme ça de sporadique, que les gens avaient tellement foi que Dieu a honoré leur foi. Mais ce n'était pas une doctrine que ni l'apôtre ni les autres apôtres vont développer plus tard en demandant aux gens de venir avec les mouchoirs. Vraiment, ce que la Bible décrit, ne faisons pas comme si c'était quelque chose que la Bible a prescrit. Ce n'est pas la même chose. Il y a ce que la Bible décrit et ce que la Bible prescrit. Et beaucoup vont même très loin. Eux-mêmes, ils s'en chargent d'acheter les mouchoirs et ils viennent vendre.
C'est devenu le
vraiment, les mouchoirs qu'ils ont achetés, par exemple, à 50 francs, ils vendent à 1000 francs, 2000 francs parce que c'est béni. Nous sommes où là? Et nous étions en train de parler de ces fous-là. Que les gens ne se privent même plus, ils partent dans la friperie ou bien ils passent une commande de mouchoirs de 50-50. Ils viennent, ils commencent à vendre aux gens à des prix exorbitants en disant que ce sont des mouchoirs bénis. Ils peuvent faire ceci et cela avec ces mouchoirs. Où est-ce que nous trouvons ce genre de doctrines et d'enseignements dans la parole de Dieu? Bien-aimés, vous tous ceux qui êtes en contact avec nous.
C'est clair et c'est vraiment déplorable. Et c'est même ce que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a eu à chasser lorsqu'il est entré dans le temple. Pourquoi? Parce que les gens, n'est-ce pas, vendaient les pigeons qui coûtaient, n'est-ce pas, c'est un exemple, qui coûtait 50 francs à l'extérieur dans les marchés. Ils venaient dans le temple vendre des mouchoirs à des pigeons à quelques 1000 francs. Ça dit que si le pigeon était à 50 francs dehors, on pouvait le vendre à 1000 francs dans le temple simplement parce qu'il fallait arnaquer les gens. Ça dit que c'est même de l'arnaque qui est en train de se passer autour de nous aujourd'hui. Et vraiment, nous appelons les uns et les autres à être vigilants, à regarder dans la parole de Dieu. On demande un seul verset sur lequel ces gens s'appuient pour donner de tels enseignements. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. De grâce, bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants.
Et l'une des choses qui m'attriste, c'est de voir même que ces choses-là, ça commence comme l'amusement. Au fur et à mesure que le temps passe, ça va de mal en pis. Parfois même des grands hommes de Dieu qui disent aux gens, venez tel jour avec même des mouchoirs, on va faire. C'est-à-dire, c'est qu'on pensait que c'était juste bon, c'est pas, ça finit par devenir des doctrines. Et c'est vraiment inquiétant. Il y a ce message que je ne sais pas. Si vous voulez souvent écrire, prenez la peine de bien écrire pour que nous puissions savoir vraiment ce que vous voulez dire. Bonsoir, est-ce que Dieu relève encore aux humains de nos jours? Bon, pour dire vrai, je n'arrive pas à bien déchiffrer ce message. Il y a ce message également qui dit, salut à vous en studio, pardon, la Bible a combien de chapitres? La Bible a combien de chapitres? Vous-même pouvez prendre le temps
de compter, de vous-même, compter. Vraiment.
Oui. Oui, on n'a pas besoin d'être pasteur pour compter le nombre de chapitres. Donc, que contient la Bible? Voilà. Et par rapport à l'huile d'onction, la dernière fois nous avons lu dans Exode que l'huile d'onction devrait servir à oindre les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple, et même Aaron qui était comme le souverain sacrificateur, et les sacrificateurs, les lévites qui étaient avec lui, pour pouvoir les consacrer afin que ces choses-là soient désormais considérées comme appartenant à Dieu, y compris ces hommes qui travaillaient directement dans le temple. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et l'huile, nous pouvons aussi remarquer dans l'Ancien Testament que cette huile d'onction, on pouvait l'utiliser pour oindre particulièrement trois catégories de personnes. Il y avait les rois, les prophètes et les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs. Voilà. Vous pouvez voir cela. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de Jésus, c'est à cause de Jésus que nous sommes là. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus. Il est notre modèle. Une autre modèle par excellence. Nous allons un peu nous intéresser à sa vie, comment il a commencé son ministère. Si nous lisons, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, il est écrit de Jésus là-bas.
Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Là, il est écrit.
Peut-être avant que tu lises ce message, bonsoir, est-ce que Dieu révèle encore aux humains de nos jours son mystère? Son mystère, qu'est-ce que c'est que d'abord un mystère? Il faut d'abord définir tout cela. De toutes les façons, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ va conclure en disant « Malheur à quiconque va ajouter ou retrancher, quoi que ce soit de ma parole. » Ça sous-entend que Apocalypse, qui est le dernier, clôture la parole de Dieu, et tout ce que Dieu peut donner aujourd'hui doit être tiré de sa parole, ou bien ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Donc Dieu peut bien se révéler aux gens, mais la révélation c'est tout simplement pour permettre aux gens de comprendre ce qui est déjà écrit, et non des révélations qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, bien qu'ils n'ont même aucune base biblique.
Je crois que c'est aussi simple que cela. Actes des Apôtres chapitre 10 au verset
38,
là il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Amen. Aujourd'hui, on utilise également l'huile que l'on appelle à tort huile d'onction pour pouvoir oindre les gens, avec surtout même les serviteurs de Dieu, pour pouvoir les consacrer dans les ministères. Est-ce qu'on doit le faire véritablement? Non, pas du tout. Nous n'en avons plus du tout besoin. Et nous sommes là maintenant en train de soutenir avec les versets bibliques, en commençant par notre maître. Nous venons de lire ceci dans Actes chapitre 10, verset 38. Écoutons très très bien ce qui est écrit. Vous savez comment Dieu a un. La Bible nous dit que Dieu a un, le Seigneur Jésus. On ne voit nulle part où Dieu est en train de verser l'huile d'onction même sur le Seigneur Jésus. Pourtant la Bible dit bien que Dieu l'a oint. Oint de quoi? Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui oint les hommes. On n'a pas besoin d'utiliser l'huile ou l'huile d'onction pour oindre les gens afin qu'ils soient consacrés ou reconnus comme hommes de Dieu ou serviteurs ou servantes de Dieu de nos jours. Et de la bouche du Seigneur Jésus, nous allons lire ceci dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne qui va parler.
Luc 4, 18, là il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen.
Amen. Je ne sais pas, s'il vous plaît, lorsque vous restez à côté de votre poste, si c'est vraiment pour écouter ce qui est dit, écoutez et soyez vraiment attentifs. Parce qu'il y a des messages, parfois, que vous, lorsque vous envoyez, nous vous demandons si vous êtes en train de vous amuser ou je ne sais pas. Bonsoir à vous en studio, à Sako. Est-ce qu'il y a vraiment l'huile d'onction sur terre aujourd'hui? Nous avons crié et crié et crié que l'huile d'onction n'existe plus sur la terre, même tout de suite même. Bon, c'est étonnant que vous envoyez des messages pour poser ce genre de questions.
Et prochainement, vraiment, nous n'allons plus accepter d'être distraits.
Justement.
S'il y a des messages qui viennent vraiment, qui ne nous permettent pas d'avancer, on sera obligé de classer et de continuer.
Justement, c'est pour cette raison que j'ai vraiment tenu à lire ce message et dire aux gens que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ dit, avant de commencer son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et ainsi de suite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pourtant, nous ne voyons nulle part où le Seigneur Jésus-Christ a été oint avec l'huile, ou huile d'onction. Et pourtant, il a été vraiment oint pour faire tout ce qu'il a fait, et que nous connaissons tous. Et c'était par le Saint-Esprit qu'il a été oint. Alors, c'est pour dire que si le Seigneur Jésus n'a pas eu besoin que l'on verse l'huile sur lui pour pouvoir être considéré comme serviteur de Dieu, et surtout pour pouvoir accomplir tout ce qu'il a accompli de nos jours également, nous n'en avons pas besoin. Le Saint-Esprit est suffisant pour pouvoir oindre quelqu'un et le qualifier pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, peu importe ce que le Seigneur a appelé quelqu'un à faire sur cette terre. Si tu es vraiment né de nouveau, nous avons expliqué cela la dernière fois, tu ne peux naître de nouveau qu'en ayant l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu que tu as est déjà en train de te mettre à part pour servir le Seigneur. Et au fur et à mesure que tu vas te consacrer au Seigneur, te discipliner et te soumettre à sa parole, tu verras que tu vas servir Dieu correctement sur cette terre. D'ailleurs, nous allons rester toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes là par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 21 et 22. Écoutez attentivement.
2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. Là, il est écrit. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arcs de l'esprit.
Amen. La Bible est suffisamment claire. Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu désormais qui oint les enfants de Dieu sur la terre.
Alléluia.
Ce n'est plus un autre homme. C'est-à-dire un homme sur cette terre n'a plus le pouvoir de oindre un autre pour pouvoir servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui oint ses enfants en les donnant son Saint-Esprit, comme nous venons de lire. C'est le Saint-Esprit qui oint. Quand tu as le Saint-Esprit te met à part pour le Seigneur. Donc, cette cérémonie que nous voyons de nos jours, qu'on organise, et avec l'huile qu'on va verser sur les gens et qui va symboliser la consécration, vraiment, il y a des choses parfois que je vois. À la limite, en même temps, je me demande si beaucoup ont vraiment compris ces choses, si c'est vraiment l'ignorance, ou je ne sais pas, parfois on organise des cérémonies, peut-être on invite quelqu'un, peut-être de très très loin, il vient avec une huile,
il vient des cartons, avec des cartons d'huile, pour commencer son commerce dans l'église, il fait des choses terribles, bien aimé dans le Seigneur, et la source de tous ces enseignements, c'est l'Ancien Testament. Il faut que nous comprenions, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il faut que nous comprenions très très clairement. Et c'était tellement... c'est-à-dire que c'était un véritable problème que l'apôtre Paul, lui-même, a écrit, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens 3. Il y a un passage là qui est clair, à partir du verset 14. Il dit là que « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Et il continue au verset 15 en disant « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. » Donc, j'ai lu cela pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que Christ qui vient ôter ce voile. Et regardez autour de vous, tous ceux qui soutiennent ce genre d'enseignement, où est-ce qu'ils vont tirer, n'est-ce pas, des appuis dans l'Ancien Testament. Et c'est clair, comme l'apôtre Paul le dit, lorsque vous prenez vos sources dans l'Ancien Testament, c'est clair, le voile que le Seigneur Jésus-Christ avait déchiré là, revient voiler nos cœurs. Mais lorsque nous nous convertissons vraiment au Seigneur Jésus, ce voile vraiment est ôté. Et c'est à la seule condition que nous nous tournons vraiment de l'ancienne alliance et que nous nous convertissons, que nous regardons vers celui-là, n'est-ce pas, qui nous a délivrés et celui-là qui nous a lui-même oint.
Amen, amen. Et il y a ce message qui parle également du sel béni. Sel béni, c'est la même chose, eau bénie, huile bénie, tout ça, ça entre dans le même cadre.
C'est dans le même cadre. Et c'est tellement vrai, pasteur, excusez-moi un peu, parce que l'autre, dernièrement, il m'est arrivé de prendre un taxi une fois où j'ai rencontré un frère, n'est-ce pas, pendant qu'on s'est connu, et du coup, il me fait comprendre qu'il ne marche jamais sans son huile d'onction. Un peu comme si l'huile d'onction était le fétiche. C'est-à-dire que ce n'est pas différent du fétiche que le marabout te demande de ne pas te débarrasser de cela, donc d'avoir toujours ça sur toi. C'est-à-dire que j'ai regardé le frère, j'ai seulement dit, bien aimé dans le Seigneur, va encore attentivement lire le livre de Jacques, tel que tu t'appuies dessus pour soutenir le fait que tu marches avec l'onction. Donc, tellement, c'est-à-dire c'est devenu le fétiche où les gens ne peuvent plus s'en débarrasser. Donc, faisons très très attention, nous ne sommes plus très loin du maraboutisme dont le Seigneur nous a délivré hier.
Et nous sommes dans le cadre de la vérité qui libère sur votre radio. Et puisque nous sommes en train de parler de l'huile d'onction, particulièrement cette huile qui est utilisée également pour oindre les serviteurs de Dieu, afin de pouvoir les consacrer, oui, avec les cérémonies qui vont avec. Et la plupart des temps, beaucoup se disent que bon, tant qu'ils ne sont pas passés par ces cérémonies, qu'ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Oui, oui. Et beaucoup se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu parce qu'ils sont passés par ces cérémonies. Oui, on les a oints publiquement avec l'huile. Et parfois même, c'est à certains, même après les avoir oints, on les donne des habits spéciaux. D'autres même, on les donne même les bâtons de commandement en disant que tu es devenu prophète, archibishop, pasteur international, prophète des nations. Non, vraiment. Revenons à la parole de Dieu pendant qu'il est encore temps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cette raison que nous allons continuer en parlant maintenant même des serviteurs de Dieu, en ouvrant une pente. Oui. Et nous allons d'abord nous consacrer à certaines catégories des serviteurs de Dieu. Et ça va nous donner vraiment à réfléchir par rapport à beaucoup de choses et revenir à la parole de Dieu. Nous sommes là dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10 au verset 17.
Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10. Là, il est écrit: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ.
Voilà, on s'adresse même d'abord à Amen. La Bible nous dit clairement que c'est Christ qui fait des dons aux hommes. Ça veut dire que c'est Christ qui fait des hommes, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Voilà, la Bible est tellement claire. Donc, que ce n'est pas un individu qui décide de oindre l'autre et dit que tu es devenu pasteur, tu es devenu évangéliste, docteur, bishop, archibishop, tout ce que nous connaissons. Non. La Bible dit bien que c'est Christ qui fait des dons aux hommes.
Amen.
C'est
Amen.
Christ. C'est aussi clair. Donc ça veut dire que c'est Christ qui oint, qui choisit. Et quand Christ choisit, personne ne peut demander à Christ pourquoi il a fait. Les gens vont seulement découvrir qu'en cette personne,
il y a un dépôt.
Il y a tel dépôt. Tout simplement.
Et ce n'est pas dans des écoles.
Oui.
Hein, ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'on peut prêter de l'argent pour aller à l'école et passer 2 ans et revenir, devenir pasteur et dire que Dieu nous a appelés. Et lorsque nous regardons autour de nous, effectivement, c'est ce genre de brebis galeuses qui, n'est-ce pas, passent le temps à faire à ce qu'on parle mal des enfants de Dieu. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de vrais pasteurs, il y en a. Mais nous disons et nous insistons selon la parole de Dieu que c'est le Seigneur lui-même qui appelle
ces gens. Et Dieu ne se répand pas de son appel, comme il a dit dans sa parole. Alors ça veut dire qu'on ne devient pas pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, tout ce que vous imaginez, parce que on a été ouindule quelque part.
Non,
ou bien même parce qu'on est parti dans une école théologique. Selon la parole de Dieu, non.
Ça n'a rien à voir avec ce que les hommes ont fabriqué.
Et maintenant, la Bible nous dit même pourquoi le Seigneur donne ce ministère. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour le bon fonctionnement et l'édification du corps de Christ. Mais malheureusement, nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup sont plutôt en train d'édifier leur empire religieux que d'édifier le corps de Christ.
Bien d'édifier leurs boutiques.
Les boutiques et ainsi de suite.
C'est vraiment terrible.
Ce ministère-là, c'est pour édifier le corps de Christ. Ce n'est pas une entreprise que quelqu'un se lève pour créer. Non. D'ailleurs, nous allons y revenir si Dieu le permet plus tard. église ou entreprise commerciale.
Et c'est vraiment une entreprise, pasteur, parce que les gens se sont arrangés à faire à ce que lorsqu'ils ne sont même pas là, c'est leur dame, c'est leur femme qui poursuivent avec la gestion de l'œuvre selon eux de Dieu. Donc c'est vraiment déplorable.
Et je ne sais pas ce que cet auditeur est en train de vouloir dire. S'il vous plaît, dans la nouvelle alliance, est-ce que le sacrifice des animaux, ces anneaux, existe? Bon.
Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé.
Il a remplacé tous les sacrifices
par son sang.
Oui. Vous dites que nous ne devons pas invoquer le sang de Jésus pour nous couvrir, ou bien pour couvrir nos maisons. Que peut dire lorsque nous prions, peut-être c'est ça.
Oui, c'est aussi simple que ça. Lorsque nous prions, la Bible a si bien dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Si simplement, en réclamant même la promesse du Seigneur, en ce qui concerne sa protection pour nous, nous connaissons des passages qui disent « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. » Nous connaissons tout cela, mais nous n'avons pas le droit. Nous prions que Seigneur, que ta parole s'accomplisse en ce jour lorsque je vais me coucher. Parce que tu as dit que tes anges campent autour de moi. Tu rappelles simplement au Seigneur sa parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin de couvrir. Et si nous discernons que nous avons besoin de prier, et ça dit que Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Luc, de Marc. Nous avons lu cela dans le livre de Marc 16, dans les derniers versets de Marc. Il est clair, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. C'est ce que je voudrais dire à cet auditeur.
Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 22. Maintenant, nous avons profité des lieux que l'on utilise pour oindre les gens et les consacrer au service du Seigneur pour pouvoir, comme ça, nous intéresser un tout petit peu au serviteur de Dieu avant de continuer. Nous sommes là dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2.
Là, il est écrit Apocalypse 2, verset 2.
Oui, verset 2.
Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas.
Amen. Ici là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de s'adresser à une église et qui dit que il y a des gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ça veut dire que quoi? On peut se dire qu'on est ceci, on est cela, alors qu'aux yeux du Seigneur, on ne l'est pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est serviteur de Dieu que l'on est véritablement. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est pasteur, que l'on est prophète, que l'on est véritablement. On peut dire cela de bouche, mais alors que le Seigneur peut-être peut dire, je ne t'ai jamais appelé apôtre, pasteur et autres. C'est parce que c'est le Seigneur qui appelle ces gens et qui les donne ce ministère. Donc il n'y a que le Seigneur qui est qualifié pour pouvoir authentifier un ministère. Et maintenant, pour pouvoir authentifier un ministère, si c'est vraiment le Seigneur qui est l'auteur de ce ministère, lui-même, il nous a donné quelques éléments. Il n'a pas dit lorsqu'on va prier, on va verser l'huile sur quelqu'un. Nous sommes là, par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15. Écoutons attentivement ce que le Seigneur Jésus-Christ dit.
Matthieu 7, au verset 15, là, il est écrit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » À leurs fruits, je crois que c'est le verset qui nous intéresse. Oui, je continue, pasteur.
Tu peux continuer.
« Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Tu peux continuer.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Amen. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, qui parle ici. Il dit que le dernier jour, beaucoup de gens viendront, mais lui dit que nous avons prophétisé en ton nom. Jésus ne dit pas qu'ils ont prophétisé au nom du diable. En son nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus ne conteste pas le fait que ces personnes ont vraiment fait cela. Donc on peut utiliser le nom du Seigneur Jésus pour prophétiser, faire des miracles et beaucoup d'autres choses. Et ce n'est pas pour autant qu'on appartient forcément au Seigneur. Et les gens doivent le savoir. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est bien placé pour parler. Et il va maintenant dire qu'on va reconnaître ceux-là qui viennent de lui par les fruits. Tout simplement. Il ira jusqu'à dire que beaucoup vont même venir en habit d'agneau, alors qu'au dedans, ce sont des loups
ravisseurs.
Donc, pour dire que si vous n'êtes pas vraiment vigilant, vous ne pouvez même pas soupçonner que ce sont des gens qui ne servent pas le Seigneur.
C'est clair.
Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vraiment être berné. Parce qu'ils vont soigner l'extérieur, l'apparence.
C'est clair. Et ils récitent des versets. Ils récitent des versets comme il n'est pas permis, bien aimé dans le Seigneur.
Et le fruit, quand le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non par les miracles. Écoutez très bien. Non, on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par les miracles qu'il fait. Jésus n'a jamais enseigné cela.
Par les fruits.
Par le fruit.
Produit.
Et le fruit, personnellement, je peux résumer cela en disant, premièrement, le premier fruit doit d'abord être la vie morale. Il a quand même un minimum de moralité qu'il exige à ses enfants, y compris ses serviteurs. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu qui n'a pas une bonne moralité, ce n'est pas normal. Parce que c'est au travers de notre moralité que nous allons donner une meilleure image du Seigneur Jésus. Quand on parle de la bonne moralité, par exemple, si un serviteur de Dieu ne doit pas prendre la femme des gens, coucher avec les gens, ne doit pas peut-être être un escroc et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est quand même le minimum d'une certaine moralité que nous sommes obligés d'avoir en tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant que serviteur de Dieu. Voilà le pourquoi parfois il faut savoir même la moralité des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Et deuxièmement, l'un des fruits d'être aussi, est-ce qu'ils sont fidèles aux saintes écritures? Parce que l'apôtre Paul disait que ce qu'on demande aux administrateurs, c'est d'être trouvés fidèles. Donc, ils doivent s'efforcer d'être fidèles à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on sort déjà de la parole de Dieu, on est en train d'égarer les multitudes.
C'est clair. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, donc pour rencontrer, il faut payer la consultation. C'est-à-dire où nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Et les gens le disent haut et fort. Et les gens crient. Ce qui m'étonne, c'est que les gens qui lisent la parole de Dieu, ce sont eux les premiers à acclamer lorsque de telles personnes disent de telles choses. C'est-à-dire, nous avons vu où qu'il faut vendre le ministère dont Dieu t'a donné. La Bible dit que tu as reçu gratuitement et tu dois le donner gratuitement. D'où vient qu'il faut, n'est-ce pas maintenant, marchander ce que le Seigneur t'a donné? C'est des points d'interrogation que les uns et les autres doivent se poser.
Ce message, bonsoir pasteur, c'est Bacop, s'il vous plaît. Comment peut-on faire pour distinguer la bonne de la mauvaise église? Si le Seigneur le permet, nous allons consacrer une série d'enseignements à l'église. Et à partir de cet enseignement, chacun va tirer sa propre conclusion. Déjà pour dire d'emblée, l'église parfaite n'existe pas sur la terre. Nous sommes des gens réalistes. Par contre, il y a des indices qui peuvent montrer si c'est une église qui s'efforce vraiment de demeurer dans la parole de Dieu, de glorifier de Dieu, ou bien c'est une église qui s'est déjà éloignée de Dieu et de sa parole. Peut-être il y a tellement à dire là-dessus, si Dieu le permet, lorsque nous allons aborder ce sujet, l'église selon la Bible, ou l'église ou entreprise humaine ou entreprise commerciale, à partir de là, vous-même, vous serez suffisamment éclairé. Oui. Compte tenu du temps, nous sommes obligés de mettre un thème à notre entretien de ce jour. La seule chose qui vous reste à faire, c'est vraiment d'être fidèle au prochain rendez-vous. Nous allons continuer sur ce même sujet, entre autres pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, et ainsi de suite, ou chefs d'entreprise. Nous sommes à la fin des temps, et nous croyons qu'il est temps de pouvoir mettre le peuple de Dieu en garde contre les brebis galeuses qui sont introduites dans la bergerie du Seigneur et qui non seulement égarent le peuple de Dieu, surtout font blasphémer même. Oui, parce que lorsque on se met à faire des choses, enseigner les choses qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu, le résultat c'est aussi que les gens sont frustrés, les gens sont dépouillés, les gens sont découragés. Et les gens ne veulent même plus entendre parler de Jésus. Voilà le pourquoi nous sommes obligés d'aborder ce genre de thème, même si ce n'est pas de gaieté de cœur.
C'est vrai, même si ça nous coûte ce que ça nous coûte. Et nous voulons simplement dire que, comme l'apôtre Paul disait, nous voulons parler non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. N'en déplaise si nous sommes rejetés, mais si Dieu approuve ce que nous disons par sa parole, c'est l'essentiel pour nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais t'inviter à rester connecté, n'est-ce pas, à ne pas n'est-ce pas, te décourager, toi qui aimes le Seigneur Jésus, toi qui as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, continue d'aimer le Seigneur, ne tiens pas compte de ce qu'il y a autour de toi. Peut-être que par un comportement quelconque, un serviteur de Dieu te décourage, peut-être, retourne au Seigneur. Parce que la Bible dit que vraiment ce n'est pas normal. Est-ce que demain tu diras que non, c'est chacun de nous qui rendra compte à Dieu pour lui-même. Si les hommes, n'est-ce pas, le font. Et toi qui es en train de te décourager, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Prépare-toi pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Fuyons le péché, fuyons tout ce qui n'honore pas le Seigneur et nous garderons nos robes propres, comme l'a dit la parole. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je voudrais dire bonsoir, n'est-ce pas, au frère Séverin, au frère Laurent de Paix, à toute la famille, à ma charmante épouse, la sœur Edwige Talon. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent, la sœur Edwige, la sœur Clémentine, tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis.
Amen.
Vous venez d'écouter La Vérité qui Libère, La Vérité qui Libère.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Pour tout contact ou pour tout conseil, n'hésitez pas d'appeler à ces deux numéros. D'abord le 677 61 93 77 et aussi le 696 36 25 40. Je reprends. 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Vous pouvez précéder des 237 ces numéros si vous appelez hors du Cameroun. Connectez-vous aussi sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Connectez-vous sur ce site et téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt. Et que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.